Samedi 15h, c'est l'heure de vous retrouver pour une nouvelle saison documentaire autour de portraits radiophoniques de femmes et d'hommes d'exception. Quelle fut la vie de celle ou de celui qui fit œuvre? Comment l'œuvre et la vie se nourrissent-elles l'une l'autre? Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Quand elle arrive dans le champ de la caméra, les ombres de Garbeau et de Clara Beau passent. Et à ses côtés, on cherche Cary Grant, écrivait Marguerite Duras. Truffaut, René ou Buñuel, tous furent saisis par sa grâce et sa voix à la ponctuation imprévisible. Aujourd'hui, Lila Bozès, Luc Evovillier et Annabelle Brouard vous proposent Delphine Seyrig, 1932-1990, c'est toute une vie de femme à part entière.
Ce qu'il y a de certain, c'est que chaque fois que je joue un rôle, j'ai l'impression qu'il faut que je me rapetisse un petit peu. J'ai l'impression qu'il faudrait maintenant écrire pour les femmes les rôles qu'on a toujours écrits pour les hommes, c'est-à-dire les rôles, les équivalents de Hamlet, de Macbeth, des personnages où les femmes pensent, où les femmes agissent et qui donnent envie de participer. Aux choses, d'avoir des vies aventureuses.
Delphine Seyrig, vie, vidéo et combat. Un documentaire de Lila Bozès, Luc Evovillier et Annabelle Brouard.
On était en vacances dans une maison familiale et on avait la même chambre et on avait la radio sur le chevet entre les deux lits. Et on avait des sacs de, je sais pas, moi je dirais 2 kilos de pistaches, des pistaches salées tellement bonnes. On grignotait des pistaches, on écoutait des chansons de Bing Crosby et de Frank Sinatra, la pire horreur, mais on se pâmait, on était folles de joie. Et on écoutait ces chansons qui maintenant nous feraient dégueuler, mais enfin, c'est comique de penser à ça, hein, de penser qu'on était tellement conditionnés par les mois d'amour, enfin quoi. Et de penser qu'après on est devenu féministe. Justement, plus on était enfoncé dans cette mythologie, plus le féminisme avait un sens pour nous. C'était une sœur, Delphine. Quand elle nous présentait toutes les deux, elle disait « Voilà, Yo et moi, on est nés ensemble. »
Johanna Wider.
Alors on s'est retrouvés au Liban, dans un lieu qui est très connu à Beyrouth, ça s'appelle le Collège protestant. Moi, je débarquais de Roumanie en parlant que l'allemand, et elle était là. Alors, on nous a mises côte à côte, parce que moi, je parlais pas, et elle parlait beaucoup. On est devenus très complices, comme ça. Et puis, nos mères étaient extrêmement opposées. L'une était très sportive, qui a fait du bateau, c'était Miette, la maman, qui a été navigatrice, très courageuse. Quand moi je l'ai connue, c'était déjà de la vieille histoire, mais enfin. Mais par contre, ma mère n'aimait que les toilettes très chics, comme ça, très cintrées, des petites vestes cintrées. Et Delphine ne rêvait que d'une chose, c'est d'essayer, quand ma mère était au bridge, d'essayer les vêtements de ma mère. Donc, on rêvait chacune d'avoir la mère de l'autre. N'empêche que les mères ont été dans nos vies, et à elle et à moi, un sujet de réflexion et de problématique très présente et très troublante.
L'or léger qu'elle murmure sonne. Simple doigt de l'air.
Cette chose que je ressens qui est que je suis à la fois d'ici et à la fois d'ailleurs.
Alors, par quoi commencer? J'ai des lettres qu'elle m'a écrites à moi, j'ai des lettres qu'elle a écrites à ses parents, j'ai des lettres qu'elle a écrites à son mari.
Duncan Jungerman.
J'ai un journal d'adolescente. Voyons voir ça, juste comme ça. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Mai 49, donc elle est lycéenne. Pourquoi fait-on des études à notre âge? J'ai 17 ans. Je ne suis fixée à rien. Je sens en moi une grotte à explorer, une grotte infinie, inépuisable. Irriguer, creuser des sillons parallèles, faire entrer le soleil. Je n'y vois que du noir, du rouge, des dents rieuses et des larmes. Et on me demande de faire des devoirs.
Alors vraiment, vous ne savez pas tout ce qui se passe en moi. Dans ce cas, je ne vous félicite pas. Comment ? Un homme qui m'observe du matin au soir.
C'est un reproche ?
Un reproche ? Ah non, décidément, je vois bien que vous n'êtes pas perspicace.
Peut-être.
Elle découvre le théâtre et
comme je vous observe,
lorsqu'elle annonce à son père dans le métro qu'elle veut faire du théâtre, la première fois, il est extrêmement sévère.
Mireille Branger.
Quelques mois plus tard, elle lui envoie une longue lettre en lui disant « Voilà, bien sûr, je peux passer mon baccalauréat. Je ne sais pas si je l'aurai, mais je sais que j'ai trouvé le sens de ma vie. » Et Henri Céric, son père, va lui envoyer une lettre magnifique. Il lui dit « Je ne suis pas sûre que tu sois faite pour cette carrière. Tu me demandes de parier sur toi comme sur un cheval qui n'a pas encore couru. Eh bien, je parie sur toi, petit poney. »
Mes parents se sont rencontrés en 1950. Ma mère était une gamine de 17 ans et mon père un jeune homme de 24 ans, un Américain étudiant aux Beaux-Arts. Ils se sont rencontrés à peu près au moment où ma mère s'est lancée dans le théâtre. Ces 10 années avec mon père ont été 10 années de vaches maigres, en fait. Ils étaient tous les deux à la recherche de quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à atteindre encore. Et je crois que c'était très important de savoir mutuellement pour s'épauler, pour s'encourager, pour se soutenir. Paradoxalement, au moment justement où ils se sont trouvés professionnellement, ils se sont séparés. C'est-à-dire que 10 ans plus tard, donc vers 1960, Delphine a percé à travers le film L'année dernière à Marienbad de René, et mon père, de son côté, a percé aux États-Unis à travers le musée d'art moderne et est devenu aussi un nom dans la peinture.
Alors vous aussi, vous êtes comme les autres, vous posez des questions. Vous dites que vous voulez rester étranger, moi aussi, je veux rester étrangère. Vous venez.
Ah, vous êtes sans doute cette actrice.
Vous ne savez pas son nom. Tant mieux. Je vous mets au défi.
Mais madame, attendez.
Non, pas madame.
Mademoiselle.
Oui, vous pouvez le dire très haut sans hésiter. Mademoiselle.
Mademoiselle.
C'est ça.
Vous êtes ici l'invité d'Elisa.
Oui.
Je craindrais de manquer
Mais je suis libre.
Elle jouait toujours une nuance expressive en dessous de ce que les autres auraient joué. Et dans cette épaisseur entre ce que l'on attendait des autres actrices et ce qu'elles donnaient à elles, il y avait pour le spectateur la possibilité de se glisser dans une forme d'imaginaire qui faisait qu'on ne sortait jamais tout à fait d'une pièce de Delphine Seyrig comme on y était entré. On se trouve dans la grande salle du Théâtre National de Chaillot, qui est une salle qui a fait rêver Delphine Seyrig. Elle découvre le théâtre en 1949 et à l'été 1951, avec Philippe Noiret et deux de leurs amis, ils vont partir à Avignon au festival. Et là, c'est un choc face à Gérard Philippe et à Jean Villard sur la scène du Palais des Papes à Avignon. Et dès lors, elle ne va plus avoir de cesse, jusqu'en 1955, que d'essayer d'entrer au théâtre de Chaillot. Elle passe des auditions à plusieurs reprises, et il y en a une qui va lui laisser un souvenir cuisant. On ne sait pas très bien si elle la passe devant Gérard Philippe ou devant Jean Villard, parce qu'elle ne le dira pas. La réponse qu'il lui a été donnée, elle est cinglante, elle est « on ne vous entend pas ». Et de fait, c'est vrai. la voix si belle de Delphine Seyrig dans une salle aussi immense que celle de Chaillot, où il y a 50 mètres entre la scène et le dernier gradin et qui fait 3000 places, ou pour la cour d'honneur du Palais des Papes, en 1954, on ne l'entend pas. Elle va compenser cela d'une certaine manière en partant dans les compagnies de la décentralisation qui fleurissent dans l'après-guerre, et notamment dans la compagnie de Jean d'Asté, qui est la Comédie de Saint-Étienne, où elle va jouer toute la première partie de sa carrière jusqu'à son départ aux États-Unis. C'est une vie qui se passe dans cette ombre du Théâtre National Populaire.
Qu'est-ce qui s'est passé sur le quai de la gare? Je vais partir pour l'Amérique. Je vais être tranquille. C'est un peu tard, je le sais bien, il va falloir que je fasse vite pour rattraper le temps perdu.
Maintenant, vous pensez que parfois le temps peut ne pas se perdre.
C'est une façon de parler, je n'ai jamais rien pensé là-dessus. Rien. Vraiment.
J'avais travaillé avec Tania Balachova avant, et avec Roger Blin, et avec Pierre Bertin. Chacun m'avait apporté quelque chose de différent.
Delphine Seyrig, 1985.
Avec Tania Balachova, elle m'a secouée pour que j'ose sortir des émotions. Mais je ne savais pas comment faire. C'est à l'Acteur Studio que j'ai compris qu'on pouvait apprendre à faire ça. Que ça se travaille comme les muscles avec des haltères. Et que c'est même la seule façon de faire pour ne pas s'user complètement et se perdre dans les émotions. Au théâtre, il faut tuer, il faut mourir, il faut faire des choses qu'on nous interdit absolument de faire dans la vie. Et Strasberg nous a expliqué véritablement comment on y arrivait.
Jeanne Dillman, 211-2, 4e.
Alors, tu prends un morceau qui est trop petit d'abord.
Bon, disons, je commence à la mettre là-dedans et puis je vois que ça colle pas.
Faut apprendre à connaître son corps, à voir les fuites qu'il y a, à voir les choses à comprendre, les choses inconscientes qu'on fait, dans sa façon de parler, dans sa façon de se mouvoir, dans des réactions, dans des non-réactions, dans des paralysies, sans les juger. Ça, on m'avait jamais appris en France. On me disait, tu es paralysée. Mais ça me servait à quoi de savoir que j'étais paralysée? Là, on apprend à savoir pourquoi.
Ah non. J'ai mis, tu recouvres l'assiette comme ça.
Ah.
Tu recouvres l'assiette.
Alors, là, je ne sors pas l'escalope. Non. Je prends le papier comme oui. ça. Je vois que je ne peux pas bien recouvrir.
Oui.
J'en prends un autre et je le mets bien à la place. Et je la porte au frigidaire et je sors du champ.
Voilà.
Faut que je fasse vite, tu comprends? Et alors, moi, à mon avis, je sors vite du champ, on me tend une tasse, il faut que quelqu'un me tende la tasse, et que je verse comme ça, je pose la tête dans l'évier et j'ouvre le frigidaire pour mettre la tasse dedans, et c'est la fin du plan.
Il y avait des exercices tout à fait précis, spécifiques, qu'on faisait pour développer l'imagination. C'était des exercices très précis de mémoire sensorielle, de mémoire affective. On reproduisait des objets familiers sans qu'ils soient là. C'est pas de la pantomime, c'est simplement reconnaître pour nous-mêmes notre verre à dents ou notre brosse à dents familière et arriver en public devant la classe à recréer le poids, la forme. Et petit à petit, on s'exerce et on arrive, si on a l'honnêteté de s'arrêter quand on sent plus rien et de recommencer à zéro, de dire voilà, là il y a un petit angle, là il est vide et il pèse quand même assez lourd parce que le fond est épais et que bon, on n'en parle pas, on le fait devant les autres.
Vous vous occupez un peu d'appartement dans votre métier, non?
Oui.
Pendant que j'y pense, vous ne connaîtriez pas quelque chose à louer par hasard?
À cette heure-ci.
Où voulez-vous que j'aille?
Vous n'avez pas d'amis, pas de parents?
Personne.
J'ai passé une bonne partie de mon enfance dans les loges des théâtres dans lesquels elle a joué. Je me souviens d'elle donc se préparant devant le miroir et se maquillant et pendant que je dormais sur le canapé ou que je faisais mes devoirs ou que je dessinais.
Des fleurs, du champagne, des coquillages, des fraises. Et je me suis dit qu'il était convenable de rester quelques heures de plus.
Toute cette atmosphère de théâtre avec le son de ce qui se passe sur scène, retransmis par des haut-parleurs dans la loge, tout ça, c'est un souvenir collectif de polyphonie des voix. C'était une expérience assez extraordinaire.
Alors écoute, on va prendre l'avion dans un petit moment par une chaleur à crever. Il paraît qu'à Paris il fait aussi chaud, je me demande bien quel temps il fait à New York, j'ai aucune idée.
Cassette enregistrée par Delphine Seyrig pour son fils d'un camp.
Alors là-bas je t'enregistrerai quelques, je sais pas quoi.
1976.
C'est pas du tout. Et on commence à jouer mardi soir en public, et j'ai une peur abominable, parce que quand je joue en anglais, je n'arrive pas à me rattraper quand je fais une petite erreur, je stumble et c'est horrible. Et je n'ai eu que 3 semaines pour apprendre un rôle énorme, et j'ai très peur. C'est des moments d'angoisse abominable où je me dis je vais pas y arriver, et c'est vrai, je vais peut-être pas y arriver, enfin je vais essayer de toute façon. Enfin. Écoute, je me dépêche, je veux pas rater l'avion, voilà, au revoir.
Là, faut garder un ton. Faut admettre le silence à la radio. Une rencontre prodigieuse pour moi. Je lui dois énormément.
Jean Rochefort, 1998.
Je crois, j'ai joué 6 ou 7 pièces avec elle. L'exigence de cette femme, la rigueur de cette femme, l'ouverture à toutes les abysses de suggestion d'interprétation d'un rôle, tout en étant, comment dirais-je, vraiment, on dit un seigneur d'un homme, on va dire une reine, quoi, c'était une reine. Jouer 300 fois une pièce de Pinter, nous jouions le mari et la femme, l'homme, l'après-midi, se déguisait en loup-bas. Elle se déguisait en putain et on se rencontrait dans notre appartement en ayant des relations tout autres que quand nous étions mari et femme. J'entrais en scène, j'avais mon chapeau melon, je l'enlevais, je l'embrassais longuement et je lui disais « Ton amant vient à quelle heure, ma chérie ?»« À 3 heures, comme d'habitude. » Pendant 250 représentations, il y avait l'humour et la même douleur. Cette chance-là, extraordinaire.
Sur le grand bassin du château de l'idole, un grand cygne noir portant rubis au col dessinait sur l'eau de folles arabesques. Les gargouilles pleuraient de leur rire grotesque. Un Apollon solaire de porphyre et d'ébène attendait Pygmalion assis au pied d'un chêne. Je me souviens de vous et de vos yeux de jade, l'appât à Marienbad, l'appât à Marienbad. Mais où donc êtes-vous?
Je vous répète que c'est impossible, je n'ai même jamais été à Frédéric-Bas.
Eh bien, c'était ailleurs, peut-être. Si loin de Marienbad. À Karlstadt. Si loin de Marienbad.
C'est un film que René a créé pour elle. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, René a retenu Delphine pour un autre film qui ne s'est jamais réalisé en fait, qui s'appelait Harry Dickson, Les aventures d'Harry Dickson. C'est un roman de gare surréaliste. Et le rôle de Delphine pour ce film devait être une petite gangster, une chef de bande, qui s'appelait, je crois, Le Gang de l'Araignée. Comme ce film a mis un temps interminable à se produire, si interminable qu'il n'a jamais été produit, en attendant, il fallait que René fasse quelque chose, donc il a choisi de faire Marianne Bad, qui était une sorte de bouche-trou. Et donc, c'est presque par hasard que Delphine s'est retrouvée à incarner ce personnage qui a marqué les esprits ensuite. Mais imaginons que Marianne Bad n'ait pas dû être fait. L'image que Delphine aurait laissée dans les esprits aurait été celle d'une méchante, d'un personnage diabolique.
La première pièce qu'elle joue après Marianne Bad, c'est une pièce de boulevard qui s'appelle Le Complexe de Philémon, au Théâtre des Champs-Élysées. Et c'est une surprise, évidemment. Elle sait très bien que le projet suivant qu'elle va faire avec René, puisqu'il est déjà en préparation, c'est Muriel. Et ça montre véritablement, bien sûr, peut-être le souhait de casser son image, mais au-delà de ça, d'affirmer sa liberté, et qu'elle ne renie pas non plus ce qu'elle a joué dans les années 50. Elle a joué Wilde, et à la fin de sa vie, elle jouera à nouveau des pièces qui relèvent du théâtre de boulevard. Je crois que c'est véritablement dans la carrière théâtrale de Delphine Seyrig où elle a fait toujours les choix qu'elle voulait faire. Elle n'y a jamais été contrainte pour des raisons financières. L'expression de son immense liberté.
Vous connaissez le problème, vous vivez, vous le subissez. On n'essaie pas de faire quelque chose pour faire pression, eh bien la situation ne changera pas.
Chacune a vécu sa vie, mais on s'écrivait beaucoup, on échangeait beaucoup. En 68, je retrouve Delphine, évidemment, qui me dit, ben viens, on va aller à Nanterre, on va faire ceci, on va faire cela. Delphine nous expliquant la charte, enfin 68, le refus, l'imagination au pouvoir. Donc elle était complètement prise là-dedans. Et puis un beau jour, je l'ai trouvée devant ma porte, le premier numéro du Torchon Brut. Et là, ça a commencé la mobilisation féministe.
De nos tanières,
parler de sa vie privée, on nous a appris que c'est très mal parce qu'on révèle des choses qui doivent rester dans le sein du foyer ou même de l'intimité du couple. Or, il s'avère que c'est la meilleure manière d'opprimer une femme.
Delphine Seyrig, 1976.
Si tu parles de ça, tu es indiscrète. Si tu parles de ça avec ta voisine ou avec d'autres femmes, tu commets une indiscrétion envers ton mari, par exemple. Alors que ces femmes, quand elles décident d'aller au-delà du simple papotage de palier à palier ou au marché en achetant des carottes, eh bien, elles s'aperçoivent qu'elles ont toutes les mêmes problèmes. Donc, ça devient un problème effectivement politique. C'est là que, de l'individuel, on passe au collectif.
Ambiance passionnée au tribunal de Bobigny hier après-midi. Quatre personnes comparaissaient pour avortement et complicité de manœuvres abortives. C'était la mère de Marie-Claire, deux de ses collègues de travail qui lui avaient indiqué une adresse et la faiseuse d'ange que l'on avait trouvée à cette adresse qui étaient toutes les quatre dans le box des accusés.
Libre et gratuit et une information pour la contraception.
Ils ont qu'à pas baiser.
Ça a été ce qui a remué au fond le pays, parce que ce procès, je le répète, politique, est passé donc à l'extérieur.
Gisèle Halimi.
Sans compter qu'il était soutenu par des manifestations de femmes. Il y avait Delphine Seyrig, je crois Catherine Deneuve au tribunal, c'était archi-comble. Et il y avait les télévisions. On a senti qu'il y avait un démarrage là-dedans, ce qui fait que tout naturellement le relais dans une démocratie parlementaire, le relais est politique, donc parti et assemblée, et donc il a été inscrit à l'ordre du jour.
Avant de signer le manifeste des 343, j'ai hésité une quart de seconde en prenant le crayon dans ma main. Je me suis dit, mais est-ce que je vais vraiment dire à tout le monde que j'ai avorté ? Je tremblais un petit peu de parler d'une chose si privée en public, quoi. Et c'était pas prendre un risque du tout. C'était juste la crainte d'être mal élevé, d'être pas poli en disant ça. C'est fou, c'est terrible. Hein. Et on est vraiment au Moyen-Âge pour ces choses-là.
On se promène la peur au ventre dans la crainte de la prison. Ceux qui sur nos ventres font des lois devront un jour écouter notre voix.
Tu as suivi un peu
plus. Allez, viens. Allez, passe bien. Ça va ?
Ça va.
Tu dis si ça te fait très mal, et je te dis quand ça te fait un peu mal, tu respires comme des chiens.
Alors moi, je regarde ce qui vient.
Respiration est venue.
Tu fais mal ? Tu veux que j'arrête un peu ?
Ça fout le camp, là.
Oui ? Tu le sens que ça fout le camp ? Oui, j'ai déjà beaucoup de choses dans ma seringue.
Comme Simone de Beauvoir ou encore Agnès Varda, Delphine Seyrig va prêter son appartement pour réaliser des avortements clandestins tout au long des années d'interdiction de l'avortement.
Hélène Fleckinger.
Et c'est même chez elle qu'a lieu la rencontre entre le psychologue états-unien Harvey Karman, l'inventeur de la méthode par aspiration qui porte son nom, et Pierre Joannet, médecin du groupe Information Santé, en présence d'une vingtaine de militantes du mouvement de libération des femmes.
On fait savoir que Delphine Seyrig veut intervenir parce qu'elle a suivi, comme c'est la règle du jeu, le débat. Alors, pour une courte intervention, le témoin de surprise de ce soir, qui est Delphine Seyrig.
Oui, moi je sens que je ne vais pas beaucoup avoir l'occasion de parler parce qu'évidemment, je suis là dans un studio à part, donc je vais dire simplement ce que j'ai à dire maintenant parce que je sens que je n'arriverai plus à placer un mot. On a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté ? Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure, et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps.
C'est un moment qui, médiatiquement, est extrêmement marquant dans le milieu, à la fois évidemment des médias et son propre milieu professionnel. Elle va se voir accoler cette image de féministe radicale et ça va nuire à sa carrière, même si elle l'assumait pleinement. Delphine Seyrig n'avait peur de rien. Plus on allait la chercher, plus elle répondait, mais en 10 fois plus radicale, quoi.
Je suis en ce moment, il faut te dire, très très angoissée parce que je sais pas bien comment expliquer. Si tu veux, ce que je n'avais pas compris quand j'étais petite, ou du moins que j'avais compris inconsciemment sur la situation des femmes. Je n'en souffrais pas consciemment puisque je ne m'en rendais pas compte. Donc simplement, je faisais tout ce qu'il fallait pour être acceptée en tant que femme, mais je n'avais pas conscience du malheur de cette situation, d'être obligée de... Bon. Tandis que maintenant que je suis, si tu veux, politiquement consciente de cette situation, ça me remplit de colère, d'une colère consciente, puisque... Je sais que j'entre maintenant dans une ère où je vais ou être obligée d'accepter des rôles qui ne me plaisent pas et des rôles secondaires, parce qu'il est très rare qu'on fasse des films qui parlent de femmes de mon âge. Donc je vais être obligée d'accepter des espèces de rôles de, tu sais, background, des choses comme ça. Et en plus, certainement, on va me faire jouer des situations où je serai en compétition avec des femmes plus jeunes, chose que je ne veux pas faire. Enfin, je vais devoir prendre des décisions sur la façon dont je vais exercer mon métier dorénavant.
Revenons sur Terre, revenons sur Terre. Je vous propose, Madame le Ministre, un autre fieffé miso. Un autre fieffé miso, Louis Ferraud, de la haute couture.
Ah, ça c'est inattendu.
Vous allez le voir.
Croyez qu'il était le seul, au contraire, si j'ose dire. Ça c'est inattendu.
Vous allez le voir.
Croyez qu'il était le seul, au contraire, si j'ose dire. Chut.
Bougereau, est-ce que c'est difficile de travailler constamment avec des femmes?
Je crois que oui.
Quand on entend qu'il y aura pour le 31 décembre une émission de Bernard Pivot qui s'intitule « Ouf, l'année de la femme, et c'est fini », on se dit « il faut quand même voir ça ». Tout à coup, Delphine a dit « mais il faut l'enregistrer, on ne sait jamais ce qu'on va trouver ». Et quand on a vu ce que c'était, on s'est dit « mais ça, on ne va pas laisser passer ça ».
Oui, parce que ce sont des femmes, je crois.
Heureusement qu'on l'a fait, parce que c'est à partir de ça qu'on a fait Mazo et Miso.
Je trouve que c'est un langage d'homme qui aime les femmes.
Oui. Bon, donc toi, tout va bien.
Je trouve que c'est un langage d'homme qui aime les femmes.
Oui. Bon, donc toi, tout va bien. Donc toi, tout va bien.
Tout va très bien, Madame la Ministre. Tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, Madame la Ministre. Tout va très bien, tout va très bien.
Quand on a la chance d'avoir de la vidéo, et qu'on passe une portion de l'émission, on intervenait, on disait, on se dit, c'est pas vrai, elle a pas dit ça, plaît-il? Et puis on faisait le bruit, et puis on le réentendait.
Principal.
La mécanique, c'est d'avoir une table de montage, un moniteur où passe le film, on arrête, on intervient avec des panneaux qu'on confectionne au fur et à mesure, ce qu'on filme après.
Mais à côté d'un confort juridique, elle réclame aussi un confort moral.
Ah mais ça, on ne peut pas le leur offrir, on ne le trouve qu'en soi-même.
Vous n'avez jamais eu de problème en
on
tant
qu'on dirait corps. Vraiment que l'histoire des hommes, c'est une bergerie.
Vous voyez, on était très impertinentes, très insolentes. Ça a été 2 mois de charrette. On allait tous les jours, tous les soirs. On commençait vers 9-10 heures et on rentrait à 3 heures du matin pendant 2-3 mois. Avec Nadia, hein, il faut bien nommer Nadia Ringard aussi.
Vous venez d'entendre la dernière énormité prononcée par Françoise Giroud au cours de cette émission.
C'est la dernière, la dernière.
C'est l'avant-dernière.
Oh, je m'y perds. Tiens, prends le micro, fais-le toi-même.
Vous venez d'entendre l'avant-dernière énormité prononcée par Françoise Giroud au cours de cette soirée. Et maintenant, la suite de l'émission.
La vidéo va être un terrain totalement libre, un terrain de jeu pour les féministes, dont elles vont s'emparer avec une très grande inventivité politique et formelle.
Vous me demandez pourquoi je fais de la vidéo. En fait, jamais il n'était pas passé dans mon esprit que je ferais du cinéma.
Carole Roussopoulos.
Parce que
2006.
Je sais pas, parce que c'était pas, ça correspondait absolument pas à mon envie. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. Il y a énormément de femmes qui se sont emparées de ces machines dès qu'elles en ont entendu parler. Et je pense que inconsciemment, c'est que ces machines n'avaient pas d'histoire. Donc il y avait pas d'école. La vidéo n'était pas prise par les hommes. Et je pense que c'est véritablement parce que la vidéo n'avait pas d'histoire.
Au tout début de l'année 1974, Delphine Seyrig et Johanna Vider participent à un stage vidéo que Carole Roussopoulos organise les week-ends à destination exclusive des femmes. Il s'agissait d'apprendre sur le tas, d'expérimenter. Ce stage à l'épicerie, puisque c'était le nom de l'atelier vidéo que tenaient les Roussopoulos, a été absolument décisif pour Delphine Seyrig et pour Johanna Vider, qui ensuite en ont parlé à leurs copines. Et ça a fait partie vraiment des origines aussi avec le film Les enfants du gouvernement, des Muses s'amusent.
Je sais pas, on s'est retrouvés dans différents groupes, dans des AG, aux Beaux-Arts, tout ça, mais c'était un peu inorganisé. Et puis un beau jour, on s'est retrouvés quelques-unes avec une fille qui était photographe qui s'appelait Monique Duriez et une réalisatrice, Claude Jourde, et on a fondé les Muses. On s'appelait les Muses s'amusent en plus, d'après que nous.
Bien sûr, il y avait cette idée de moyen d'expression, de création, mais aussi que ça serve dans la lutte, concrètement, sur le terrain de la contre-information et dans une perspective d'action immédiate et fédératrice.
Nous, Congrès international du mouvement de libération des femmes à Francfort, sommes informés qu'Inès Étienne Roméo a été enlevée et torturée par la police brésilienne tous les jours pendant une durée de 100 jours et violée par un de ses tortionnaires dont elle a été enceinte.
C'était très important de pouvoir tourner et remontrer les images immédiatement, pas nécessairement monter, d'autant plus qu'il était très compliqué de faire du montage vidéo à cette époque. On n'avait pas encore les techniques qui apparaîtront plus tard. On ne pouvait pas faire du montage ciselé, bien entendu, comme en argentique. L'un des intérêts de la vidéo légère était précisément de pouvoir remontrer immédiatement ce qui avait été tourné, le diffuser sur le champ pour servir immédiatement un combat.
Nous sommons le général Geisel, nouveau président de la République du Brésil, qui a affirmé être le vrai défenseur des libertés démocratiques, de mettre en liberté inconditionnelle et immédiate Inès Étienne Roméo et de faire en sorte que ses tortionnaires soient jugés dans les plus brefs délais.
Ça se passait chez elle, parce qu'elle avait de la place. Et il y avait une petite pièce qui était près de la cuisine, qui était équipée en vidéo, qui était une chambre d'amis, mais où il y avait une table basse, une grande planche par terre, et puis on s'asseyait sur des coussins à la japonaise, et on travaillait là. Et d'ailleurs, cette pièce s'appelait « C'est la vie des hauts et des bas ».
Je pars demain matin très tôt pour Paris, juste pour la journée, parce qu'il y a un anti-rape day que j'ai beaucoup contribué à organiser. Et
Cassette enregistrée par Delphine Seyrig, 1976.
Pour cette journée de demain, de la mutualité dont je t'ai déjà parlé, on a fait des très très belles affiches. Il y en a une qui est toute blanche et qui dit « Cette affiche est contre le viol ». Et on pense qu'elle va être couverte de graffitis obscènes. Au bout de quelques heures, on les photographiera.
Cette affiche a été tirée à des milliers d'exemplaires. Et on les vendait 10 francs. On en avait des milliers. On les vendait partout. Et tout le monde les voulait. On se les arrachait. Donc tout cet argent a été mis sur le CCP des Muses. Et c'est avec cet argent que nous avons loué la mutualité pour faire la mutualité sur le viol.
Bonjour, Dacan. Je pense que tu es en Oregon. Il est en Oregon. Il doit être rentré. Il m'a écrit, là.
Il y a eu des prises de parole, il y a eu de la musique, on se retrouvait aussi. C'était une des rares fois où on s'est retrouvés, toutes les filles du mouvement qui se retrouvaient autour du thème de ras-le-viol, quoi. Il les préparatifs de la mutualité sur le viol étaient presque plus intéressants que la mutualité elle-même, où il y a eu beaucoup de monde, où les gens se sont rencontrés, ont échangé, c'était très chaleureux, on était très fiers. Mais alors, les discussions qu'on a eues, ça s'est passé place des Vosges, chez Delphine, et c'est là qu'il y a eu des filles qui ont raconté leur viol. C'est la première fois qu'on a eu des discussions d'ailleurs très intéressantes sur la criminalisation. L'objectif, c'était de criminaliser le viol. Mais ce qui est étonnant quand on a vécu ces années-là, qu'on est maintenant en 2020 et qu'on dit toujours que les commissariats sont mal formés pour accueillir des femmes qui viennent déposer une plainte de viol. Alors on se demande, quoi. C'est comme dit Simone de Beauvoir, dès que les choses vont mal, les femmes doivent faire attention parce qu'elles vont perdre tout ce qu'elles ont gagné.
Une mendiante est entrée dans le parc.
Je sais. C'est celle qui chante, vous savez.
Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout. Oh, toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chante.
Ah oui, sèche, stridente. Comment tu vois la voix stridente?
Impersonnelle. Fausse.
Je ne savais pas que vous existiez.
Et c'est de casser la syntaxe complètement. Il n'y a plus de virgule, plus de points.
Je ne savais pas que vous existiez.
Toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me dis tout.
De toute façon, Delphine, je la portais au nu, la voix de Delphine, c'est une chose.
Marguerite Duras.
Et elle avait une voix qui traînait quand même, qui n'était pas...
1993.
Très claire, très pure. Une voix comme mélangée à une sorte de musique qu'elle n'entendait pas. Quelque chose comme ça, oui.
Elle avait la voix française et puis la voix anglaise. Alors, on parlait souvent anglais. La première fois que j'ai parlé anglais avec elle, ça a été un bonheur incomparable.
Michael Lonsdale.
Parce qu'il y avait des...
2002.
La langue anglaise, vous savez, est très belle parce qu'elle est appuyée sur la musique des mots et des syllabes. I'm very happy to see you. I love you. Ce sont des prolongations comme ça du son qui allaient très bien à la voix de Delphine parce qu'elle était en effet musique. Et ça m'a frappé dès le premier jour. Je l'ai connue au cours de Tania Balachova. Le premier jour où je suis allé là-bas. Et j'ai vu cette jolie femme, merveilleusement inspirée en travaillant en Juliette. Et tout de suite, ça a été la fascination.
Je ne saurais vous dire combien j'ai de plaisir à me trouver avec vous ce soir. Vous êtes tous les deux si parfaits, si beaux et jeunes. Si charmant. Oh, ce ne sont pas des choses à dire, je le sais. Mais je n'ai jamais rien su faire comme tout le monde. Il faut que j'exprime à haute voix ce que je pense. Je sais que je suis trop communicative, trop franche. Oh, comment disait ce pauvre grand-duc déjà? Ah oui. Elisabeth, vous êtes trop nature. Ah, eh oui.
L'image d'une femme éthérée et hiératique est souvent attachée, encore aujourd'hui, surtout dans les milieux cinéphiles, à Delphine Seyrig. Et pourtant, Delphine Seyrig a campé aussi des personnages beaucoup plus ancrés dans la vie quotidienne. Elle n'a jamais hésité, en tant qu'actrice, à casser son image de vedette. Elle a accompagné la création de femmes. Elle a travaillé avec Marguerite Duras, Chantal Akerman, Liliane de Kermadec, Patricia Moraz ou encore Pomme Meffre. on a toujours un peu cette image de Madame Tabar et on a souvent voulu la ressolliciter pour cette image de Madame Tabar, de baiser volé de Truffaut.
L'autre jour, Sylvie a dit en riant, tiens, voilà Madame le dinosaure. Antoine s'est mis en colère. Vous n'avez pas honte de parler comme ça d'une femme aussi exceptionnelle et tout ça. Et puis il a ajouté, Madame Tabar n'est pas une femme, c'est une apparition.
Quoi, une apparition?
Oui, une apparition, parfaitement.
C'est pas un hasard si son grand projet, en vidéo légère, c'est « Sois belle et tais-toi », la collecte du témoignage de 24 actrices françaises, états-uniennes et canadiennes sur leur métier, leur rapport aux hommes dans ce métier, leur rapport conception-interprétation des rôles féminins de femmes qu'elles incarnaient. Etc.
Toujours des rôles de prostituées, de l'alcoolique ou de femmes finies, de femmes abandonnées, de femmes vidées. J'en ai fait un cet été. J'étais en costume d'époque, puis à un moment donné, j'ai nagé dans la rivière, puis je suis ressortie avec le vêtement collé sur moi. Et puis il fallait que je parle comme un petit bébé. Puis je voulais pas le faire comme ça. Je l'ai beaucoup amélioré, mais il me disait, mais t'es trop sérieuse, t'es trop sérieuse. Mais je suis pas sérieuse, cette femme-là, elle a 35 ans, je dirais, elle va d'un homme à l'autre. Est-ce que je pose pas des questions? Comment qu'elle s'arrange d'aller... Qu'est-ce que c'est sa vie? Raconte-moi, je le dirai pas. Je dis, mais c'est important pour moi de le savoir. Non. C'est comme tu te disais, les hommes, ils aiment ça, les femmes cochonnes. La phrase célèbre de mon rôle, c'est ça. J'étais tellement démoralisée, là. Je suis démoralisée après avoir fait des trucs comme ça, c'est épouvantable. C'est constant.
La durée de tournage rendue possible par la vidéo permettait une parole dans la longueur et une plus grande continuité finalement dans les échanges, dans la conversation, avec une confiance qui pouvait s'instaurer avec les femmes qui étaient filmées, à qui on pouvait remontrer les images qui venaient d'être tournées. Et on pouvait justement les effacer, réenregistrer par-dessus. D'ailleurs, on a beaucoup réenregistré par-dessus et perdu énormément de documents passionnants filmés à l'époque. Mais bon, ça faisait partie de la démarche de prendre le temps d'écouter des femmes, des paroles qui ne l'avaient pas été.
Ben, on a fait ça, on a fait « Sois belle et tais-toi », on a fait « Où est-ce qu'on se met ?» On a fait. Moi, j'ai fait « Accouche », j'ai fait un film sur l'accouchement. Et puis, Paul Rossopoulos, qui est quand même le technicien de l'affaire, nous a dit, vous savez, c'est très joli, c'est merveilleux la vidéo, on peut tout effacer, on peut refilmer, seulement, au bout de quelques années, tout va être effacé de toute façon. Donc ce qu'il faut, c'est le transcrire sur des supports valables. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire un projet qui nous permettent de... Parce qu'il y avait d'autres groupes qui faisaient de la vidéo. Et les vidéos de ces autres femmes étaient aussi menacées que les nôtres.
Le centre audiovisuel Simone de Beauvoir va être créé sous l'impulsion de Delphine Seyrig, Johanna Wider et Carole Rousseau-Poulos. Il s'agit à la fois d'archiver et de produire de nouvelles archives de l'histoire en cours, de l'histoire immédiate des femmes.
Je suis une de ces vieilles demoiselles qui ont eu peur. Une de ces femmes qui n'ont osé dire ni oui ni non. On les garde enfermées. On ne veut pas qu'elles sortent du couvent.
Delphine était un personnage quand même très particulier. Hein. Si on aimait Delphine, on n'aimait pas sa copine. C'était elle. Elle avait une personnalité très forte. encore maintenant, si vous voulez, il y a très longtemps qu'elle est morte. Eh bien, parmi ceux qui l'ont connue, ou en tout cas qui l'ont aimée, on ne l'a pas oubliée. C'est curieux d'ailleurs. Moi, je n'étais pas intime avec elle. Et son souvenir, il est là comme si c'était hier. C'est bizarre. Hein?
Je copie ce que j'entends en regardant dans la grande lunette à vision. Je pensais que ça plaquerait de grands tableaux.
J'ai fait un film après un long métrage avec elle.
Liliane de Kermadec.
J'avais pas besoin qu'elle soit très belle, très chic. Elle avait une stature qu'on ne pouvait pas détruire. On pouvait lui mettre un sac de pommes de terre sur le dos, c'était pareil. Très belle, quoi. Moi, j'ai toujours eu envie de tourner un film drôle avec elle. J'avais des projets, moi, pour elle. Je sais pas, oui. Sarah Bernard, par exemple. Elle aurait été géniale, avec une jambe de bois.
Oh, c'est un petit chérubin qui a l'air d'un vieux nénuphar. Un nid d'oiseau, c'est symbolique.
Alors, Aloïse, quand elle a dit oui, j'ai eu l'impression que le film allait se faire. C'est comme si on monte, quand on monte sur des patins. Tout d'un coup, c'est parti.
Je n'ai jamais vu de plus grand artiste que l'accrocheur des tableaux. Tout ce qui elle est devenu magnifique.
Delphine, elle aimait pas beaucoup l'image. Hein. Moi, je me souviens, elle avait peur de, par exemple, une longue focale. Ça lui faisait peur. Je pense pas qu'elle se sentait aussi belle qu'elle était. Parce qu'elle avait, elle était pas classique. Enfin, elle avait des, à l'époque, pas être classique, genre, blond, machin. Non. Et donc, je me souviens qu'une fois on en avait discuté, et elle m'avait dit, mais tu ne te rends pas compte, si on fait un gros plan, au Gaumont, ma bouche, elle a 2 mètres de long. Alors, c'est vrai que c'est un peu effrayant.
C'est une histoire comique. J'étais au festival de théâtre de
Chantal Ackerman,
Nancy ou Annecy, le grand festival de théâtre
2007.
Et pour montrer un film, ils avaient une petite section films expérimentaux. Et pour montrer un film expérimental que j'avais fait à New York, qui s'appelle Hôtel Monterey. Et on m'appelle. Et on me dit, enfin, les haut-parleurs me disent, allez, là-bas. Je me retrouve en face d'une femme. Blonde, platinée, les cheveux tirés. Mais la Delphine d'avant le féminisme. Sublime. Bon, je dis, tiens, c'est Delphine, c'est Serica. Alors, eh ben, écoute. Et alors Chantal, il paraît que votre film passe à 8h et que c'est une très bonne heure. Et moi, enfin, les photos que Jane Fonda a fait au Vietnam ne passeront qu'à 10h et personne ne viendra les voir. Je dis bon. Et alors, est-ce que vous voudriez bien échanger d'heure avec moi? Je dis, vous voulez que personne ne vienne voir mon film? Alors, elle me... Non, c'est pas ça, mais enfin... Je dis, écoutez, Delphine, je veux bien, mais à une condition, c'est que vous veniez voir mon film à 10h. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, il y a eu un petit trou dans nos... Pendant quelques mois, on s'est plus vus. Et puis, on s'est retrouvés... Dans un truc féministe, je parlerai pas, c'est trop long. Et puis j'ai écrit un truc qui était pas Jane Dillman. Et je lui ai demandé si elle voulait me donner des conseils de qui pouvait jouer ça. Elle m'a dit moi. Je dis quoi? Parce que c'était une petite bourgeoise et moi, comme tous les metteurs en scène, je voyais Delphine comme une grande bourgeoise, magnifique, trop belle pour moi, etc. Tout d'un coup, une nuit, j'ai tout réécrit et en pensant à elle. Mais c'était plus du tout le même film. C'était pour elle.
Il faut que mon cœur se calme. 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 Cette nuit, affolée, il m'a tenu éveillée auprès de mon mari qui s'était endormi, son corps contre le mien, ne se doutant de rien. Et quand le jour venu, il a quitté la chambre, frôlant de ses pieds nus le tapis rouge tendre. Dans un souffle léger, je lui ai murmuré.
Bonjour, madame Schwartz.
Bonjour.
Vous voyez là, là, c'est toutes les photos que j'ai. Alors ça, c'est Miette, la mère de Delphine, sur son bateau qui s'appelait Perlette, en mer Égée, Amazone des mers. Et j'ai posé cette photo que j'ai collée au mur de ma mère quand elle était sur son lit d'hôpital, les dernières semaines de sa vie. Ça l'a beaucoup, je crois, émue d'avoir le regard de sa mère posé sur elle, en train de vivre sa vie de jeune femme libre dans les années 20.
Ce qui me revient, c'est à quel point on était les unes et les autres, je crois que Chantal aussi, sensible à son enthousiasme et à sa positivité. Ce qui fait que quand on parlait de quelque chose, elle était toujours partie prenante, elle disait « on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça ». Elle a eu le même enthousiasme quand elle avait 10 ans que quelques semaines avant sa mort. Et le jour où elle n'était plus là, on a dû apprendre à vivre sans ça. On a dû apprendre à vivre sans ça.
La situation mérite attention, mes enfants. La pose est la la la, look at Bovie la la la, Annabelle Bois la la la, toute une vie France culture, mes enfants, Lilian Kermadec la la la, Johanna Wiener la la la, Duncan Jungerman, Coralie Sering, Hélène Fleckinger et Mireille Branger ont tout manié. Danser.
Tiens, j'ai encore dessiné ma robe en entrant.
Comme c'est triste.
C'est peut-être triste, mais c'est comme ça. De toute façon, quelque chose ne marche pas. Mon charme n'agit plus. S'userait-il?
Un charme peut-il s'user comme un habit?
Non, mais il peut faiblir, comme une pile.
Une pile? Que voulez-vous dire?
Rien. Je vieillis.
Mais l'effet ne vieillisse pas.
C'est vrai, j'avais oublié.
Chivina, Véronique Jolivet, attachée de production Daphné Abgral, coordination Christine Bernard. Merci au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir et à la Bibliothèque nationale de France. Une pensée toute particulière pour Liliane de Kermadec.
Est-ce que cette chose est jamais arrivée?
Sur le site de France Culture, à la page de Toute une vie, réécoutes et podcasts sont disponibles, mais aussi une bibliographie et des informations variées. Le site est préparé et enrichi par Sylvia Favre. 16h, c'est aussi la rentrée d'Étienne Klein et de la conversation scientifique.